Nous sommes mercredi 30 mai 2018. Sega, c'était plus fort que toi. Vous écoutez le Dojo Bar.
Bah
bonsoir à tous, bonsoir Antix.
Bonsoir.
Bonsoir Dansgar.
Sega.
Non, non, s'il te plaît. Bonsoir Mecton.
Bonsoir.
Et bonsoir Zergy.
Salut.
Zergy qui n'a pas fait donc le Sega de Sonic 3D Blast. Hein.
Sega.
Sega.
Bref. Non mais celui-là était particulièrement ignoble. Donc le sujet de l'émission de ce soir, c'est un peu la Hawa. Mais nous faisons une émission rétro et nous allons parler de Sega juste après la fin de la Dreamcast, c'est-à-dire la période où il y avait encore des petits trucs intéressants éventuellement chez Sega et qui étaient publiés sur d'autres plateformes, le GameCube, la Xbox, la PS2. Bref, on va parler de cette période un peu particulière de Sega qui, après une espèce de... ce qui est considéré comme, par beaucoup comme une espèce d'énorme pic créatif au moment de la Dreamcast, qui finalement s'est affaissé. On va essayer de voir à peu près à quel moment c'est vraiment complètement parti en couille. Alors, en retraçant la liste des jeux, on en parlait un tout petit peu en off avant, vous allez voir que le point d'inflexion est quand même assez visible, en fait.
Alors, je tiens à signaler que c'est pas une excuse pour parler de F-Zero GX. Hein.
Alors, F-Zero GX n'est pas édité par Sega, il est édité par Nintendo.
Oui, mais il est développé par Sega, du coup, on fait comment?
Bah, on va peut-être l'évoquer quand même. Ah. Là, j'ai pris exclusivement les jeux qui étaient édités par Sega. Donc, édités, développés par Sega, ou juste édités par Sega, développés, mais par des compagnies qui étaient contractées par Sega pour le faire.
Je me sens sale.
Oui, mais t'inquiète pas, ça va être pire. Voilà, mais nous allons commencer tout de suite par notre traditionnel tour de table de l'actualité. Je vais laisser la place, enfin la parole à monsieur Drosgar qui a beaucoup de choses à nous raconter parce qu'il en a mis partout aujourd'hui. Et voilà, il en a mis partout.
Je vous en ai parlé la semaine dernière, il y avait pas mal de rumeurs concernant une annonce imminente de jeu Pokémon. Et quelle fut ma surprise ce matin en me réveillant d'avoir une grosse érection en entendant toutes ces nouvelles-là, avant de déchanter un petit peu. Donc je vais m'expliquer. En gros, il y a deux jeux qui ont été annoncés pendant la nuit. Un qui est déjà disponible sur Switch, qui s'appelle Pokémon Quest. Donc c'est un free-to-play cubique, assez mignon. J'ai pu y jouer 2 heures aujourd'hui pour voir ce que ça donnait. C'est sympathique, et en gros, ça se joue plus au tactile qu'avec une manette. On s'en rend très vite compte, en fait, avec les contrôles. Et si vous voulez, ça s'approche beaucoup d'un jeu mobile. Donc Nintendo a prévu de faire une version mobile qui sortira d'ici juin sur l'App Store et sur le Google Play Store. Après, ça reste un jeu classique free-to-play qui va nous pousser à dépenser avec un nombre d'énergie limité qui va nous empêcher de faire certaines actions. Ça peut être intéressant, mais on se limite aux 150 premiers Pokémon, comme dans le second jeu que je vais évoquer, qui là est le gros jeu attendu. Alors, c'est pas non plus le renouveau de la licence, parce que la vraie suite de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sortira en 2019. Donc, j'espère qu'on aura quelques annonces à l'E3, mais c'est pas sûr.
Ça a été confirmé que le vrai prochain Pokémon génération, je sais plus combien
8,
maintenant,
hein. 8, ouais.
Ce sera en 2019 sur Switch, y a pas de soucis.
C'est ça.
Ok. D'accord.
Donc c'est un peu justement ce dont avaient peur les joueurs, en voyant justement l'annonce, ils se sont dit « Putain, mais qu'est-ce qu'ils font avec la licence ?» Mais au final, le fait que ça soit un simple spin-off, ça rend tout beaucoup plus attrayant. En gros, ils se sont dit « Bah écoutez, on va faire un remake de la première génération, donc Pokémon rouge et bleu, voire plutôt Pokémon jaune avec le stick qu'ils ont voulu donner, en implémentant certains éléments de Pokémon Go. Donc si vous voulez, au lieu d'avoir des combats classiques pour les Pokémon sauvages, on va se retrouver à les capturer de la même manière que dans Pokémon Go, c'est-à-dire en lançant la Pokéball correctement, en visant dans un cercle, etc. Si vous avez déjà joué à Pokémon Go, vous savez de quoi je parle. Après, le jeu est assez beau, contrairement à ce que j'ai pu dire sur Twitter, justement, beaucoup trouvent que l'esthétique et la DA sont assez froides, mais je trouve au contraire que l'aspect mignon rend le tout assez attachant et assez justement intéressant pour les enfants. Après, là encore, on se limite à 150 Pokémon parce qu'on va uniquement se contenter de la première région du jeu. Donc avec les deux versions Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli, vendues à 50€ qui sortiront le 16 novembre 2018.
50€ chacun ?
Chacun, c'est le premier prix, hein. Ça va forcément baisser.
Oui, ça
parce
va
que...
baisser parce que la Fnac, machin, Amazon, ça. Tout ça, ça va se concurrencer et,
Je et ça va terminer à 35-40€. Après... le jeu a l'air quand même assez intéressant, même s'il y a encore beaucoup de doutes à ce sujet. On a vu assez peu de combats, on a vu assez peu de choses, mais il y a certains points qui nous titillent. Déjà le fait qu'on puisse lier son compte Pokémon Go avec la version du jeu, c'est-à-dire qu'on pourra transférer les Pokémon de l'un à l'autre du moment que c'est des Pokémon de première génération, et on pourra aussi jouer à deux. C'est-à-dire qu'on a besoin que d'un Joy-Con pour contrôler son personnage, et on peut jouer avec deux personnages en même temps. Personnellement, je vois pas forcément beaucoup l'intérêt. J'ai vu des gens se hyper dessus sur Twitter, justement, mais je vois pas trop ce que ça va changer, parce qu'au final, la seconde personne pourra juste lancer des Pokéballs en même temps que nous, et pourra contrôler un deuxième Pokémon pendant les combats. C'est intéressant, mais c'est pas forcément ce que j'attends d'un jeu coop. J'attendrais plutôt un vrai mode, plutôt que d'installer cet entre-deux. Mais vraiment à voir, on aura beaucoup plus de nouvelles à l'E3. Et après, ce pourquoi Mecton va en foutre partout, c'est une nouvelle manette. Donc une manette en forme de Pokéball qui nous permettra là encore de lancer la Pokéball sur les Pokémon.
Goodies.
C'est ça, comme d'habitude, mais un goodies à 40€, ça va faire mal. Enfin, on n'a pas encore de prix, je crois, mais ça sera sûrement dans ces eaux-là. Hein.
En plus, si tu la balances à chaque fois, faut la remplacer régulièrement.
Surtout si on s'en prenait de la télé, ça va faire chier.
Alors, dans le trailer, le mec a bien la dragonne. J'ai vérifié.
Au cas où. Mais
il y a une dragonne, il y a une dragonne dessus. Ridicule, quoi. C'est...
Mais il y a une petite plaie à l'intérieur.
En fait, elle revient, tu vois, c'est un yo-yo en fait, c'est pas une Pokéball.
Oh putain, un yo-yo Pokéball, c'est formidable comme idée ça.
Mec, il faut le vendre à Nintendo.
Nintendo, vu que tu nous écoutes, lance ça s'il te plaît, merci.
Mais pas trop loin, ou avec une dragonne.
Oui, oh putain, merde. Et en gros, donc, il y a des vibrations dedans, un petit haut-parleur et des dioles lumineuses. Donc, ça va rappeler un petit peu le Pokéwalker qu'il y avait. Non, mais. Mais forcément, c'est pour les 2012. Quoique, si on regarde les stats de Pokémon Go, il y a quand même vachement d'adultes qui y jouent. Mais je pense pas qu'ils vont être forcément touchés par ça.
Bah, notamment des gens qui laissent leur fils de 4 ans traîner sur le balcon, qui fait qu'il est sauvé par, par Black Panther, puisqu'apparemment. Tu viens du Wakanda ? Non, du Mali, c'est pas de problème. Bref, non, mais c'est... Le recyclage médiatique, cette maladie. Bref, je t'en prie.
Voilà, pour l'instant, j'ai fait le tour. De toute façon, on aura forcément plus d'infos à l'E3 et on en reparlera à ce moment-là, hein, parce que s'il y a vraiment matière... Là, pour l'instant, j'ai encore quelques inquiétudes vraiment pour savoir comment va se dérouler l'aventure. Si ça reste quelque chose de très superficiel ou si on se retrouve dans un vrai remake avec un réel intérêt à le refaire. Pour l'instant, j'ai pu comparer un peu les différents environnements qui ont été montrés dans la vidéo de présentation avec les environnements qui existent dans les versions Rouge Feu et Vert Feuille. C'est quand même bien refait et ça me donne envie de m'y replonger, même si je connais déjà le jeu par cœur, et c'est un peu le point qui me bloque justement.
Après, je sais pas si tu as vu, mais a priori, donc maintenant on voit les Pokémon sur l'écran de jeu, quoi, ils sont plus en combat random dans les hautes herbes. Et a priori, voilà, tu marches sur un Pokémon, ça déclenche direct un combat, gros guillemets, hein, donc à la Pokémon Go, et le système de combat classique qu'on connaît plus, il serait uniquement contre des dresseurs.
Oui, c'est ce que j'avais pu lire aussi. Mais du coup, vu qu'on voit Mewtwo dans le trailer, j'ai vu pas mal de gens justement qui avaient un peu peur du fait que le combat contre Mewtwo soit juste un combat classique de Pokémon sauvage où on doit lui lancer des Pokéballs dessus, ça serait décevant pour un Pokémon légendaire.
Alors, sauf s'ils en font un boss, je sais pas.
J'espère.
On verra ça. Je te redonne la parole dans quelques secondes, mais je vais d'abord passer la main à Antix qui veut nous parler de la manette adaptative Xbox One, alors Xbox du coup tout court, enfin je sais pas, qui a l'air d'être une initiative super intéressante de Microsoft et il y a vraiment des trucs assez marrants. C'est-à-dire quand on voit les images, on voit pas trop comment ça marche, mais du coup, tu peux peut-être nous en dire plus.
Alors, donc il y a quelques semaines, Microsoft a annoncé une manette adaptative pour les joueurs en situation de handicap. Ce qui peut paraître du coup assez ambitieux, parce que quand on parle de handicap, c'est pas uniquement la personne en fauteuil roulant. On parle vraiment de handicap très divers et variés. Dans la vidéo de présentation, on nous montrait des personnes qui avaient des soucis moteurs, des personnes qui avaient perdu plusieurs de leurs doigts, ce qui fait que ça devient un petit peu compliqué de tenir la manette et d'appuyer sur les boutons par exemple. On parlait aussi de personnes qui avaient perdu de la force dans leurs doigts et qui du coup avaient un petit peu de mal à appuyer sur les gros boutons, enfin sur les boutons de nos manettes. Et du coup, donc les ingénieurs de Microsoft, en partenariat avec diverses associations qui font la promotion justement du jeu pour handicapés, et aussi bien avec les principaux intéressés, ont créé une manette adaptative. Et donc, pour vous expliquer un petit peu la forme qu'elle prend, imaginez un rectangle dans lequel vous aurez placé deux espèces de platine de DJ noir.
Plaque de cuisson.
Des plaques de cuisson, on dirait vraiment pour le coup, ouais, une plaque de cuisson que tu aurais acheté à IKEA. Et à côté, des petits boutons typiques de l'Xbox, notamment une croix, le bouton home et compagnie. Et à l'arrière, plein de ports jack avec des petits logos représentant les différents boutons. En fait, l'intérêt principal de cette manette est qu'elle sert de récepteur, notamment à divers outils et périphériques qui servent justement aux joueurs handicapés, pardon, en situation de handicap, à contrôler le jeu. Si ça vous intéresse de vous renseigner là-dessus, Gamekult a fait une très bonne série d'articles à ce sujet, et on apprend notamment que certaines de ces personnes en situation de handicap contrôlent carrément le jeu avec leur tête, par exemple.
Putain la vache.
Voilà.
Ah oui, c'est vrai que Gamekult avait fait toute une série comme ça en disant ouais, la barrière ultime du jeu vidéo finalement c'est les joueurs en situation de handicap qui en chient parfois juste pour aller bouger une caméra, ou s'il y a certains jeux qui leur sont carrément inaccessible.
Bah, faut se dire que par exemple, faire des combinaisons de boutons type maintenir LT ou L et le bouton A, c'est ça qui est quelque chose de très facile et quasiment un réflexe pour nous. Pour un joueur qui a des soucis justement moteurs, ça peut être un vrai défi. Parce que déjà, ça signifie maintenir une pression sur un bouton et en appuyer sur un autre en même temps, donc se coordonner. Et selon son niveau de handicap, effectivement, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Et donc c'est une manette qui va être proposée à un tarif de 90€, qui du coup va être très facile.
Super accessible. Ouais, enfin pas donné mais super accessible quand voilà. Tu vois tous les trucs pour tous les accessoires, que ce soit bureautique ou tout ça pour personnes handicapées, ça coûte en général très cher, ces produits à très peu d'exemplaires. Alors, c'est
précision importante, ça reste quand même une manette qui dans certains cas va devoir nécessiter l'utilisation d'autres accessoires.
Mais les autres accessoires sont pas vendus avec?
Vu que ça peut être, c'est des accessoires qui sont spécifiques à un handicap particulier, donc c'est toujours, jamais parfait. Après, le site de Microsoft pour l'instant ne détaille pas énormément le périphérique qui est prévu pour la fin de l'année. Ça parle beaucoup des histoires, notamment des personnes en situation de handicap qu'ils ont rencontrées dans le cadre du développement. Mais on peut voir notamment sur les photos que certains ont rajouté sur la manette en elle-même des espèces de périphériques de couleurs qui rappellent un petit peu les boutons de façade de la machine. Donc c'est un peu, pour l'instant, c'est vrai que... moi personnellement, j'ai pas encore réussi à vraiment voir comment tout ça fonctionnait. Puisque pour le coup, le site met vraiment plus en avant l'histoire de ces joueurs en situation de handicap. Mais c'est un projet qui, à mon avis, va être plutôt intéressant à suivre. Et qui, j'espère, sera suivi par les autres constructeurs pour proposer peut-être des périphériques similaires ou des solutions qui pourraient aider effectivement les différents joueurs à accéder au jeu.
Je me rappelle, il y a quelques années, il y a des joueurs qui étaient handicapés moteurs qui avaient commencé à bricoler des trucs pour la manette Xbox, notamment pour arriver à appuyer sur les gâchettes sans avoir à déplacer les index. Et c'est comme ça qu'ils ont inventé, je mets des gros guillemets, mais qu'ils ont commencé à mettre des trucs genre paddle sous la manette qui permettaient d'appuyer en même temps sur certains boutons. Et il y a des mecs comme ça qui ont utilisé plein de techniques à base de pression, de choses comme ça. Il y a déjà des gros bricoleurs qui s'amusaient avec 3 francs 6 sous à pouvoir dire « on peut faire un système pour aller appuyer sur le bouton qui est tout en haut et qui n'est pas très accessible, simplement en mettant une certaine pression à un certain endroit sur la manette ». Paddle qui a été repris d'ailleurs par le Steam Controller et qui a été repris sur la manette Xbox One Elite. Donc preuve qu'il y a peut-être aussi des petites astuces d'ergonomie ou des choses comme ça qui pourraient de toute façon plaire ou être adaptées à des joueurs qui ne sont pas en situation de handicap mais qui pourraient trouver ça dans certains cas plus confortable, plus détente, plutôt d'être agrippé à une manette, d'avoir une position plus confortable pour atteindre certains boutons. Voilà. C'est quand même super intéressant parce que il y a à mon avis des vraies leçons d'ergonomie à prendre là-dedans. Il y a des vraies réflexions à avoir qui sont pas si évidentes que ça.
Je pense que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, en particulier pour des personnes qui ne sont pas dans ces situations. En fait, c'est dur de se mettre à leur place, en fait.
Ah, complètement. Hein. C'est pas évident du tout.
Je viens de regarder la vidéo de présentation. Il est poussé très très loin, le truc. Ça va jusqu'à une partie qui est déportée sur du eye tracking.
Ah oui, non, mais c'est... Bon, ouais. Ce que j'ai compris, c'est que les mecs voulaient vraiment aller loin, et je trouve que c'est une superbe initiative. Et je veux dire, on n'est pas les derniers à cracher sur Microsoft dès qu'ils font de la merde, mais quand ils font des trucs bien, je pense qu'il faut le dire, et il faut l'applaudir et l'encourager. Donc vraiment, bravo les gars, c'est une très 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 belle initiative, et on espère effectivement que ça en inspirera d'autres.
Allez, je bois ça.
Voilà, merci Mecton. Et donc Mecton, qui est le prochain pour le sujet d'actu, il va cracher tout son verre, voilà, c'est nickel.
Ouais, non, juste un petit mot, je crois que c'est Antix qui en parlait il y a deux semaines. Donc la démo de Mario Tennis Aces est dispo. C'est vite dit, hein. Donc, elle est téléchargeable. Actuellement, donc si on essaye de lancer quoi que ce soit, on tombe sur un beau message qui nous indique que le service est indisponible. Et donc tout ça est là pour que du 1er juin, donc c'est vendredi, à 16h, juste après le boulot, si vous bossez à la SNCF, jusque lundi 1h du mat, donc comptez dimanche soir. Donc pendant ce créneau, ce sera dispo, donc on aurait normalement accès à des parties contre l'IA ou à des matchs 1v1, donc humain contre humain, avec au départ simplement Mario, Peach, Yoshi et Bowser dispo, et probablement d'autres persos ou des bricoles débloquables à force de gagner des points, des matchs.
Des points.
Et voilà, donc après on rappelle que le simple fait d'avoir participé à un match, alors il faut garder la sauvegarde, hein, faites pas les boulets, formatez pas votre console entre temps. Si vous avez participé à au moins un match et que vous achetez le jeu complet, donc ça vous donnera la tenue classique de Mario. Donc le Mario sans son short de tennisman.
Voilà, ce qui, mais c'est sympa comme récompense, surtout pour une bêta
gratuite.
Une bêta gratuite dispo tout un week-end, donc ça revient un petit peu au Global Test Punch ou Global Test Fire.
C'est un gros serveur test.
C'est cool de la part de Nintendo de proposer ça, c'est cool de mettre une petite carotte à la clé pour encourager les gens à venir jeter un petit coup d'œil. C'est aussi une manière de faire une promo du jeu. Qui est pas idiote du tout. J'en profite pour dire que vendredi 1er juin à 21h, vous serez sur Twitch pour suivre le Dojo FR pour un Twitch totalement exceptionnel, puisque je vais monter ce truc-là. Alors, je vous le montre, là, comme ça, vous voyez, c'est de la radio.
Wow,
c'est complètement impressionnant. C'est le kit pour modder une Super NES du camarade FF6man, que je vais essayer de monter dans ma Super NES que j'avais déjà switché, donc il va falloir tout démonter, tout remettre, sachant que j'ai que des gros fils, donc il y a plein de trucs que je pourrais pas faire. Je sens le fail.
Tu vas au faire à souder ?
J'y vais au faire à souder, je
D'accord,
sens que
D'accord, donc la, si la le Twitch coupe, c'est que ça a merdé.
Voilà, je sens que la console va passer par la fenêtre. Ça va être épique, donc je vous conseille de suivre ça vendredi. Je vais essayer de faire un setup totalement dégueulasse où vous allez pouvoir me voir souder, ça ne va rien voir, il y aura de la fumée. Enfin bref,
il y aura des morts.
Peut-être, mais à la fin, on devrait avoir une Super NES en capacité de switcher automatiquement et tout ça, et ça, c'est quand même cool. voilà, donc vous pouvez jouer à Mario Tennis Aces, mais pas vendredi à 21h, et je redonne la parole à Drosgar pour un deuxième bout d'actu, parce qu'il y a plein de trucs qui tombent en fait juste avant le 3. Là.
C'est le 3 avant le en ce moment, c'est toujours marrant. Il y avait notre cher ami Bethesda qui avait commencé à titiller un peu les grands joueurs de Fallout en mettant un live stream à peu près 24 heures sur Twitch avec un écran fixe avec le Vault Boy, donc le fameux personnage iconique de la série Fallout. Et là, le 30 mai, on a eu une bande-annonce pour un nouveau Fallout. Donc ça s'appelle Fallout 76, donc 76 pour ceux qui parlent bien anglais.
Ça s'en fait de suite.
Ouais, putain, enfin, ils ont été productifs entre temps.
Cette blague n'a jamais été faite. Never.
et du coup, on peut voir en fait un abri anti-atomique classique de la série Fallout qui a été entièrement décoré avec des travelling, avec la musique d'ambiance habituelle. On ne sait rien du jeu pour l'instant, bien entendu, parce que le 3 approche, mais ça suffit juste à titiller notre intérêt et à nous dire est-ce qu'il va être mieux que le 4 ? J'espère, parce que ça pourrait pas être pire dans tous les cas. Voilà.
Le bâtard.
Non, mais franchement, c'était pas terrible. Hein.
Ça trash tac. Et donc, je vais finir ce tour de table de l'actualité par une petite nouvelle réjouissante et rigolote. Vous connaissez Parapaz The Rapper ?
Oui.
Il y a une version qui était sortie sur PSP il y a quelques années. Et il y a une version qui est ressortie sur PS4 il y a quelques mois. Oui. Et bien, en fait, il y a des gens qui ont dataminé le jeu et qui se sont rendu compte qu'en réalité, la version PS4, c'était juste un émulateur PSP avec la ROM PSP dedans. Et qui la faisait tourner en fait en mode haute définition. Alors je sais pas exactement la bidouille qui a été faite derrière, mais en gros, voilà, les mecs ont repris exactement les assets de la version PSP avec un émulateur et c'est tout. Et du coup, les gars ont commencé à se dire mais si j'injectais d'autres ROM PSP dans cet ISO PS4 pour voir si ça marche. Et ça marche. Ça veut dire qu'on a une espèce d'émulateur non officiel pour PS4, et on peut, si sa PS4 est jailbreakée, bien évidemment, injecté tout un tas de ROM PSP dedans qui tournent donc en mode résolution, super haute résolution. Alors évidemment, je pense que ça doit être dégueulasse pour certains jeux, hein, parce que le PSP c'est quand même pas une résolution de ouf à la base. Mais voilà, tu peux jouer à plein de jeux de PSP apparemment. Enfin, les mecs ont l'air de dire que jusqu'à présent, tout ce qu'ils ont injecté à peu de choses près marchait avec quelques pré-réglages. Apparemment, il y a un petit fichier texte dans le CD qui permet de lancer l'émulateur avec 2-3 paramètres. Donc voilà, on a un émulateur PSP pour PS4. C'est très étonnant parce que Sony n'a pas encore sorti de jeu PSP sur le PSN, en fait.
Alors,
à ma connaissance.
Question, il y avait un émulateur PS1 sur PSP, donc est-ce que tu peux jouer au jeu PS1 sur ta PS4 via l'émulateur PSP?
Je ne sais pas. Ce serait vachement
Émulateurception, merde.
Émulateurception. Mais je vous rappelle que c'est ce qui se passe avec la Wii, hein. C'est-à-dire, quand vous faites tourner, c'est Castlevania Rondo of Blood sur PC Engine, sur Wii U, vous faites de l'émulation.
Ah, le bâtard.
Voilà. Bref.
Je crois qu'il parle d'une console qui n'existe plus.
Une nouvelle réjouissante, une nouvelle rigolote, une nouvelle comme on en voit peu. Voilà, si vous êtes tenté, si vous avez une PS4 jailbreakée, bah, allez jeter un petit coup d'œil, ça a quand même l'air d'être intéressant et ça a l'air d'être plutôt rigolo à faire en plus, donc voilà. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ROM qui ont été testés, mais en tout cas, il y en a certaines qui marchent, celle de Parapaz the Rapper fonctionne, hein, mais apparemment, il y en a quand même pas mal d'autres qui fonctionnent.
Alors, bref. Blague à part, sachant que la PSP, c'est à peu près une PS2, il y a peut-être moyen...
Alors, il y a déjà des émulateurs PS2, officiels, puisque y a, sur le PSN, on peut télécharger des jeux PlayStation 2. D'ici à ce qu'il y ait des trucs, voilà. Et il y a des émulateurs pour PS3, il y a des émulateurs PS3 pour PC qui commencent à apparaître et qui commencent à être pas dégueu du tout.
Enfin.
Voilà. Ben, qui ont quand même quelques petits problèmes d'optimisation, notamment parce que on n'a pas assez de cœur sur nos processeurs pour émuler le sel, en fait. C'est-à-dire que la génération Xbox 360 PS3 est un peu bizarre parce qu'il y a des processeurs qui ont une puissance complètement démesurée par rapport à ce qui se faisait à l'époque, mais une puissance graphique très réduite. Et en fait, émuler la partie graphique est finalement très simple, émuler la partie CPU l'est beaucoup moins. Voilà. My science. Bref. Nous allons faire une petite pause musicale. Non. Ah bah si, nous allons écouter un morceau dégueulasse. Voilà, on va continuer la série des trucs dégueulasses. Non mais le saignement d'oreille est un truc qui me fait beaucoup rire. Voilà, nous écoutons un morceau de la BO de Sonic Air. Vous connaissez forcément le morceau Can You Feel the Sunshine?
Can you feel the
voilà,
sunshine?
Sauf que vous ne connaissez pas la reprise en automaton. Alors l'automaton.
Oh, putain,
c'est cet instrument dégueulasse qui fait. Et voilà, c'est une reprise comme ça.
Attends, je vais chercher une bouteille, moi.
C'est absolument ignoblissime. On se retrouve dans un tout petit peu moins de 5 minutes parce qu'en plus c'est long.
Si on est vivant.
C'est génial.
Si on n'a pas voilà. Des oreilles, qu'on se saigne 3 fois d'ici là.
Bref, à tout de suite. Et nous voilà de retour.
Sega.
Sega. Et donc nous allons parler de Sega après la Dreamcast. Donc la période qui va s'étaler grosso merdo de 2001.
Comme Sega s'étaler.
Qui va s'étaler de 2001 à grosso merdo 2006-2007. Voilà, on va essayer de balayer à peu près cette période-là de 5-6 ans. Pour voir un petit peu quand est-ce que c'est parti en couille, parce que bon, c'est quand même emmerdant. Mais d'abord, il va falloir revenir un petit peu en arrière, il va falloir refaire un tout petit peu d'histoire. Et je vais donc vous faire un tout petit rappel. Donc, Sega sort sa première console de salon dans les années 80, c'est la Master System Sega Mark III au Japon. Et c'est une console qui fait un four partout dans le monde, sauf en Europe et au Brésil. En gros, aux États-Unis, c'est un four monstrueux. Faut dire que Nintendo roule sur la concurrence d'une manière.
La concurrence.
Oui, voilà, c'est un peu
qui
ça.
Qui sont arrivés trop tard.
Voilà, au Japon, c'est un échec, hein, clairement. Et donc, bah, ça n'empêche pas que Sega marche toujours bien en arcade, et donc décide d'adapter son système 16 pour faire la Mega Drive. Mega Drive qui sera de nouveau un four gigantesque au Japon.
Sérieux ?
Mais c'est, la Mega Drive au Japon est une machine de niche. C'est-à-dire que tu t'en trouves très peu, et il y a vraiment... les Japonais considèrent que c'est une machine de merde.
Ok.
C'est très sérieux. Donc c'est un four au Japon, ça marche plutôt bien en Europe, ça marche très très bien au Brésil, avec un peu de retard, mais ça marche très très bien au Brésil, en Amérique du Sud de manière générale, et ça commence à marcher aux États-Unis. C'est la première fois que ces gars commencent à avoir du succès aux États-Unis. Donc, enivré par ce succès complètement ouf, Sega sort plein d'add-ons, alors notamment le Mega CD, voilà, ouais. La 32X.
Ouais. Il va reparler de Night Trap.
Qui ressort sur Switch.
Qui ressort sur Switch, putain, non. Et en plus, comme c'est un jeu limité Run Games, je vais avoir envie de l'acheter. Donc c'est vraiment la loose. Ouais, mais je suis un gros pigeon, moi. Et le chat, voilà, le chat est parti pour miauler, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave.
Le chat est gay.
Non, mais c'est parce que c'est ça, donc j'ai dit Sega, donc tu es là. Non. Bref. Donc tout un tas de trucs pour essayer de prolonger la vie de la... Oula.
Stylé.
Donc tout un tas de trucs pour essayer de prolonger la vie de la Mega Drive qui commençait à peiner un petit peu techniquement face à la Super Nintendo. Et bah, tout ça, ça va faire peut-être pas un four, mais on va dire que ça va pas forcément très 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 bien marcher. Et ensuite vient la période où Sega of America et Sega of Japan se foutent sur la gueule pour sortir une machine. Et il aboutit de ça que bah, les deux se sortent pour la Saturn. En fait, il y a deux designs qui sont faits en interne, un par Sega of America, un par Sega of Japan. Et c'est Sega of Japan qui dit non, c'est notre design qui sortira, et ça donnait la Sega Saturn, qui est la première machine de Sega à très 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 bien marché au Japon, vraiment très très bien marché au Japon, et qui fera un four partout ailleurs. Voilà. C'est quand même pas de bol, parce que c'est la première machine de Sega qui marche très bien au Japon. Du coup, Sega of Japan était très 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 content de son coup, et Sega of America était là, genre, mais comment vous voulez qu'on arrive à vendre cette merde ?
C'est quand même au Japon, en assez plus, ouf. Hein. Au Japon, ils avaient aussi la meilleure pub du monde, puisqu'ils avaient le...
Segata
Sanshiro. Alors si vous connaissez pas, tapez sur YouTube. C'est un jeu de mots sur la prononciation de Sega Saturn au Japon, parce que c'est Sega Saturn et Shiro parce qu'elle était blanche.
Voilà, en fait c'est un triple jeu de mots. C'est à la fois un hommage au mec qui a inventé le judo, qui s'appelle genre Sugata Sanshiro. Ou Sagata Sanshiro, un truc comme ça. Donc c'est un vrai mec qui a vraiment existé. Et effectivement, Sega Saturn Shiro, qui veut dire la Sega Saturn blanche, et il y a aussi Sega Saturn Chira, qui veut dire jouer à la Sega Saturn. Un ordre, wow. Tu vois. Donc en fait, c'est un triple jeu de mots. Très très balèze. Très 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 balèze. Mais voilà, donc la Saturn marche très 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 bien au Japon.
Attends, juste quand tu parles de baston sur le design entre les USA et le Japon, c'est juste la coque ou carrément l'intérieur ?
Non, c'est l'intérieur. Hein. Il y a eu une bataille. Mais en fait, pour la Dreamcast, Sega fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a deux projets parallèles qui sont lancés, un par les Japonais, un par les Américains, en disant, voilà, le design de la prochaine console, on lance en gros deux équipes concurrentes qui vont essayer de faire le meilleur design possible.
Oh, mais le gouffre à pognon, quoi.
Alors, oui et non, parce que apparemment, pour la Dreamcast, le design a été arrêté assez tôt. C'est-à-dire qu'il y avait une proposition des États-Unis qui consistait à combiner... Alors, j'ai plus le détail exact, parce que j'ai
pour
pas...
Pour la Dreamcast ?
Pour la Dreamcast, ouais, qui
pour
consistait...
la Dreamcast, les US voulaient mettre du Power PC avec une puce graphique
3DFX,
voilà.
C'est ça.
Okay.
Merci Zergy, c'est effectivement ça. Alors que les Japonais ont proposé de reprendre des processeurs Hitachi comme sur Saturn avec des processeurs graphiques PowerVR, qui est alors une des marques de processeurs graphiques, en fait des premiers processeurs graphiques avant Nvidia et tout ça. Il y avait donc 3DFX Trio, qui n'existe plus aujourd'hui, PowerVR qui existe toujours parce qu'en fait ils font la partie graphique de beaucoup de puces mobiles. Donc PowerVR est en fait une société qui existe toujours et dont la technologie existe toujours, et qui a une particularité, c'est que la puce ne fait le rendu que ce qui est visible à l'écran. En fait, tout ce qui est invisible à l'écran n'est pas rendu, pas du tout, même pas en mémoire dans la machine, donc c'est quand même assez particulier comme technologie. Et donc il y a deux projets qui naissent. Alors je me souviens plus du prototype américain, je sais pas si tu te rappelles du nom du prototype américain.
Pas du tout.
Le prototype japonais s'appelait Katana, et finalement c'est le design Katana qui a été retenu, et qui
Black
deviendra...
Belt, non ?
C'est peut-être Black Belt, ouais. Ça me dit quelque chose, ce nom-là.
Ça me parle aussi.
Donc voilà, donc il y a deux designs qui sont faits, celui qui est retenu c'est le design japonais, qui sera donc la Katana, et qui sortira sous le nom Dreamcast. À ce moment-là, Sega investit énormément dans des studios seconde partie, c'est-à-dire qu'ils achètent, il y a même un studio du côté de Lyon. J'ai eu la chance de rencontrer un des anciens membres il y a quelques années. Oui, tout à fait.
Qui était en thérapie, non.
qui s'est recyclé dans complètement autre chose. Mais voilà, qui a travaillé pour un studio qui avait été acheté, qui a fait notamment un jeu qui s'appelle... Alors, c'est pas Revolt, c'est Toy Commander, un truc comme ça pour Dreamcast. Ou, je sais plus, c'est un jeu avec Toy quelque chose. J'ai plus le Toy Racer, quelque chose comme ça. Bref, qui a été fait par un studio français à Lyon, donc. Et donc, Sega investit énormément dans des studios first et seconde partie, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de Sega qui considèrent que c'est pratiquement la meilleure période de la marque, parce qu'il y avait énormément de jeux innovants qui n'étaient pas seulement des portages de l'arcade. Alors, il commençait à y avoir des portages de l'arcade qui étaient arcade perfect. C'est-à-dire que c'est le moment où... Enfin, quand t'avais des portages de jeux d'arcade sur Mega Drive, il y avait toujours des trucs qui étaient coupés, parce que ben, les cartes d'arcade System 16 étaient quand même plus puissantes que la Mega Drive, coûtaient plus cher à produire, et ainsi de suite. Là, Sega a vraiment décidé que le hardware de la Dreamcast, ce serait le hardware de ses bandes d'arcade, et l'idée tient la route. C'est pas idiot, tu commences à avoir une espèce de plafonnement de l'arcade qui n'arrive pas à faire plus beau que ça, quoi, en gros. Donc là, t'as vraiment une console de salon qui est au niveau, un peu comme ce que faisait la Neo Geo, finalement, mais 10 ans plus tard, et avec tout ce qu'il faut. Et t'as du coup énormément de jeux qui sont sortis. C'est le moment où Sega sort Space Channel 5, Crazy Taxi, Rez,
tas
de jeux, Jet Set Radio. Ils commencent vraiment à partir dans tous les sens, alors avec des trucs qui marchent bien, des trucs qui marchent moins bien, forcément. Mais le problème, c'est que bah, Sega est très 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 mal en point financièrement. Et que donc, eh ben, à un moment, ils sont obligés d'abandonner le marché du hardware. L'histoire extrêmement triste, c'est que c'est le PDG de Sega qui en fait avait investi de sa fortune personnelle pour continuer à produire la Dreamcast. Il est mort, je crois que c'est genre le 23 avril 2001, un truc comme ça, et Sega a annoncé que la Dreamcast était finie le 25 avril 2001.
Le mec
est vraiment physiquement, il est mort avec sa console, quoi. C'est un truc assez ouf quand il pense. Alors, le gars, vraiment, il portait quasiment ça à bout de bras. Je pense que le reste de la direction était complètement atterré de ça, et en fait, l'a laissé faire parce qu'il devait être mourant, et puis ils n'ont pas cherché plus loin, quoi. Donc c'est... Enfin, c'est... Bref, je trouve ça assez choquant, moi, comme truc, mais bon. Et donc, Sega devient un éditeur third party, et c'est la période qui va nous intéresser. Donc, on en arrive là, voilà, on a fait 5 minutes d'histoire, mais on en arrive à la période qui nous intéresse, c'est-à-dire Sega après la Dreamcast, c'est-à-dire au moment où il commence à sortir des jeux pour d'autres machines, et notamment, dans un premier temps, tout un tas de portages de jeux Dreamcast qui ont raisonnablement marché compte tenu de la Dreamcast qui a pas... super bien marché, c'est quoi, 10 millions d'exemplaires, je crois, Dreamcast, c'est pas si dégueulasse que ça, hein. En un an et demi, deux ans, c'est pas trop mal.
C'est pas assez, quoi.
C'était pas assez, de toute façon, pour que Sega arrête de saigner financièrement, ils étaient vraiment dans la grosse dèche financière, hein. C'est pas...
Bien fait aussi pour rire par Sony, qui balançait que, clairement, la PS2 était bien plus puissante que la Dreamcast, et du coup, ils ont ridiculisé dans la presse. Et ça n'a pas beaucoup aidé du coup à leur image de marque.
Ça leur a fait très mal aussi. Même si la Dreamcast est par rapport à la... Enfin, ça ressemble beaucoup à l'histoire de la Wii U et de la Switch, en fait, c'est assez rigolo. La Wii U est une console qui est très réputée pour être très très difficile à programmer, très difficile de développer pour Wii U. Avec des outils archaïques, avec très peu de soutien de Nintendo, et ainsi de suite. C'était un peu le cas de la Saturn. Les kits de développement étaient très compliqués.
Saturn, qui est une console très dure à émuler, et qui surtout était faite pour la 2D plus que pour la 3D.
En plus, oui, il faut voir que toute la 3D que produit la Saturn, c'est en fait des sprites 2D déformés. Donc c'est quand même très 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 compliqué. T'as pas de vertex, t'as pas de déformation, t'as pas de shader, t'as pas de tout ça. Et en plus, pour arriver à tirer un peu de performance de la Saturn, il faut arriver à se servir de ces deux processeurs. Aujourd'hui encore, il y a des programmeurs qui n'arrivent pas à se servir de deux processeurs en simultané. C'est pas si simple que ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de relativement compliqué de faire du multiprocesseur.
J'avoue.
Mecton est bien placé pour le savoir. Mmh. Avec des systèmes de mutex, de machin, c'est quand même assez bordélique. Mmh. Et surtout, la Saturn, si tu voulais vraiment tirer de la perf, il fallait programmer en assembleur. Alors que sur PlayStation, tu programmais en C. Alors c'est pas forcément avec ça que tu tirais les meilleures perfs. Et tu programmais quand même dans des langages qui étaient un peu plus modernes, je mets des gros guillemets, parce que
répandu,
même en 93-94, t'avais des langages plus modernes que ça. Mais voilà, ça permettait quand même d'avoir une petite idée du truc. La Dreamcast, à côté de ça, est une console sur laquelle c'était apparemment extrêmement facile de programmer. C'est-à-dire que c'était vraiment très facile de développer pour Dreamcast. Bref. Donc voilà, la Wii U était une catastrophe, la Switch c'est beaucoup plus facile, les outils sont beaucoup plus modernes, ils sont bien mieux foutus. Comme quoi, on apprend tous de nos erreurs. Et donc, on va faire ça un peu chronologiquement. Donc en 2001, Sega publie son premier jeu pour console concurrente depuis très longtemps. Alors ils ont déjà publié sur PC, hein, durant toutes les années 90 d'ailleurs. Mais là, ils publient un premier jeu. Alors le tout premier, c'est Choo Choo Rocket, qui est une adaptation directe du jeu Dreamcast et qui sort sur Game Boy Advance. Alors, je sais pas si vous vous rappelez le Choo Choo Rocket.
Si, si, je m'en souviens bien.
Voilà, ça c'était un jeu très rigolo. Effectivement, c'est un puzzle game, donc c'est très adapté à la GBA, il n'y a pas de souci. Mais c'est le premier jeu à avoir supporté le online sur Dreamcast. T'avais des parties en ligne de Choo Choo Rocket.
Ah, c'est vrai qu'ils étaient larges en avance là-dessus.
En fait, ils étaient larges en avance, parce qu'il y avait déjà SegaNet sur Sega Saturn notamment. Ah, peut-être un peu beaucoup parce qu'en fait à l'époque il n'y avait que des modems 56K qui étaient fournis par défaut avec la Dreamcast et en fait l'adaptateur Ethernet fallait l'acheter à part.
Ouais, ça décroche pas le téléphone, je suis sur Internet quoi.
C'est un peu ça, ouais. Puis en plus fallait débrancher ta ligne téléphonique pour aller brancher ta Dreamcast. Enfin, c'était quand même. C'est l'ère des pionniers, tu vois. Mais voilà, c'était rigolo. Donc Choo Choo Rocket sur GBA qui est un portage tout à fait correct. Et derrière, toujours en 2001, les mecs commencent à enchaîner. Donc portage de Crazy Taxi.
Oui.
Crazy Taxi, c'est quand même. Alors, on retiendra surtout la musique d'Offspring.
La BO, ouais.
La BO, mais c'est un jeu sur le principe qui est très orienté arcade. Faut prendre des passagers dans un taxi, et en fait, plus on roule comme un connard, plus on fait le connard, basiquement, plus on gagne de pognon.
Avec un chrono qui, ouais, te force à remettre une petite pièce
de temps en temps.
Exactement. Et c'est un jeu qui se finit en quoi ? Ça peut se finir en 45 minutes
Je sais plus, mais oui, non, c'est vraiment du popcorn game, quoi.
C'est vraiment un jeu de scoring typique d'un jeu d'arcade qui marchait très bien dans les années 90, qui est plus difficile à justifier sur console à la fin des années 90, qui là, en 2001, commence quand même à...
Et du coup, vraiment avec ce que je trouve l'habillage particulier de Sega, quoi, un rendu très péchu avec un annonceur qui gueule dans tous les sens.
Mais c'est ça, la musique criarde, les gros scores dans ta face... les trucs super colorés, les machins bien visibles, c'est-à-dire tu peux pas rater les clients, tu peux pas rater une rue, y a rien d'obscur, c'est vraiment le truc super flashy. C'est vrai que c'est très très représentatif de cette époque-là, très représentatif de l'arcade, tu vois, faut que ça pète, faut que ça attire l'œil. En fait, c'est là que tu vois que c'est de là qu'ils viennent les mecs. Il y a un portage de Rez aussi sur PS2. Alors, Crazy Taxi, c'est PS2, Xbox, GameCube. Alors la version GameCube étant un tout petit peu plus tardive, si je me dis pas de conneries. Il y a Rez, donc, qui est ressorti sur PS2. Ils sortent dans la foulée NFL 2K, parce que Electronic Arts lâche complètement la Dreamcast, et du coup c'est Sega qui crée la branche Sega Sports et qui commence à faire ses propres jeux de sport, donc notamment la série des NFL 2K, la série des NBA 2K, et la série des NHL 2K, donc ils ont fait les trois grands sports américains, c'est eux qui font, et sur des versions de jeux qui sont plutôt très correctes, pour des jeux de ces types de sports-là. Ils vont aussi faire Virtua Striker, qui est déjà moins réussi, plus compliqué. Beaucoup trop arcade, je dirais. Je sais pas si vous avez déjà joué à Virtua
C'était
Striker.
Quoi, mais
c'est... Alors, Virtua Striker, c'est un jeu de foot dans lequel t'as trois touches. T'as passe, centre et tir.
Ah, y a pas simulation, alors.
Okay. Ah, c'est pas simu du tout. Hein. C'est vraiment ultra arcade, avec une caméra tellement dynamique qu'en fait, tu vois trois joueurs en même temps, mais c'est tout. T'as une caméra super rapprochée, c'est très bizarre. Hein. À rejouer maintenant. Je pense que ça doit bien marcher en arcade, mais en console de salon, peut-être un petit peu moins. Et sur GameCube, on a un portage de Sonic Adventure 2 Battle. Antix, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Sonic Adventure 2 ?
Eh bien, contrairement à ce que Mortal dit, moi j'ai plutôt bien aimé Sonic Adventure 2 Battle. J'y ai joué en 2003, je pense. Mon premier jeu Sonic, comment dire, Sonic et son clone maléfique, original character
c'est
d'une style. Non, parce qu'il n'y avait pas Big the Cat. En fait, non, ils avaient plutôt réduit le casting. Ils avaient réduit le casting et du coup, tu avais Sonic et son shitty clone. Tu avais Dr. Robotnik et tu avais une espèce de chauve-souris blanche sexy qui servait de rival à Knuckles.
Rouge,
qui s'appelle. Bon, j'avais bien aimé. C'est pas un mauvais jeu, mais je pense qu'actuellement il est absolument injouable parce que la caméra est globalement à chier. Le doublage, à mon avis, à mourir de rire. Et le scénario est évidemment tout pourri.
Mais tes souvenirs te trahissent parce qu'en fait, les parties avec Sonic ou Shadow sont pas trop mal. Même moi, je dois reconnaître.
C'était, je pense qu'avec le recul, c'est les seules parties intéressantes, parce que les parties de recherche avec Knuckle, au début, ça va, c'est pas dur, à la fin, c'est insupportable.
Là, c'est un peu ça.
Et les parties de robots avec Tails et Robotnik, du coup, elles sont... Bon, y a pas de réflexion à avoir, en fait.
Oui, c'est ça, en fait, le jeu est séparé en trois morceaux. T'as les courses, t'as la recherche, et t'as l'espèce de bataille de robots avec Robotnik et Tails. Si je me rappelle bien, c'est bien ça.
C'est ça.
Bon, bref. Bon, Sonic Adventure 2, ça a très 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 mal vieilli, et plus ça va, plus je me demande comment le jeu a pu avoir de telles notes, parce que franchement, les parties avec Sonic sont vraiment sympas, j'ai vraiment pas de soucis là-dessus. Comme d'habitude avec Sonic, t'as l'impression de rien contrôler, c'est la console qui joue à ta place, que je trouve absolument horripilant.
Ceci dit, on n'est pas au niveau de Sonic Force, où tu peux finir un niveau sans toucher à la manette. Hein.
Ou de Sonic Lost World, que j'ai fini certains niveaux en posant le gamepad sur la table. Mais vraiment.
Je crois qu'il y a un Call of, c'est pareil.
Quel bâtard. Mais oui,
c'est vrai. Non, c'est vrai en plus.
Ah non. Non, mais tu sais, ça me rappelle un peu comment c'était le
Metal
machin
Gear,
Kinect. Le machin Kinect, là, tu sais. Le truc où tu peux juste mettre tes deux points comme ça, comme si tu faisais semblant de tenir le volant et tu bouges pas et en fait tu finis premier.
Ah, le jeu de caisse là, oui.
Oui, voilà, le truc ignoble, mais c'est un peu ça en fait. Moi, c'est ça que ça me rappelle. Bref, dans les jeux plus importants, en tout cas, on va dire un peu plus marquants, Shenmue 2 sortira sur Dreamcast au Japon et en Europe. Par contre, aux États-Unis, il ne sortira que sur Xbox. Et il ressortira évidemment sur Xbox en Europe et au Japon. Bref. Voilà, dans une version pas terrible. Mais voilà, Shenmue 2, c'est quand même un jeu un peu plus marquant. Enfin, on peut dire Shenmue chapitre 2. Alors, je crois qu'officiellement, c'est Shenmue chapitre 5 à 8, un truc comme ça. Parce que le premier Shenmue, c'était Shenmue chapitre 1 à 3, et Shenmue chapitre 4, en fait, est raconté dans une BD qui est sortie en même temps que Shenmue 2. C'est ce que j'ai... Merci Wikipédia. C'est ce que j'ai lu. Alors, Shenmue, je pense que personne n'y a joué ici. Moi compris.
J'avoue, non.
Non.
Ah, donc, on va pas pouvoir en dire grand-chose, mais je sais que ça faisait partie des jeux un peu importants. C'est-à-dire que c'est là où...
Pionnier, quoi.
Sega devait être racheté par Microsoft. C'est-à-dire que Microsoft avait fait une proposition pour racheter Sega avant de se lancer dans la Xbox. Et il dit, je veux rentrer dans le marché des consoles, qu'est-ce que j'achète? J'achète Sega. Ce qui n'est pas complètement illogique. Apparemment, Nintendo a reçu le même genre de proposition à l'époque. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé de racheter Nintendo, ils avaient essayé de racheter Sega. Ce qui n'est pas, pas idiot comme mouvement, en fait. Tu vas racheter les gens qui ont déjà la connaissance et t'essayes d'aller les intégrer, quoi. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont vu ce mouvement-là comme étant un mouvement, finalement, de rapprochement, avec des gros guillemets, entre Sega et Microsoft. Et c'est vrai que Sega sortira beaucoup de jeux pour Microsoft, notamment, à partir de 2002, Jet Set Radio Future, qui est... pas vraiment une suite, si j'ai bien compris. C'est pas... Alors, j'ai joué à Jet Set Radio sur Dreamcast, j'ai jamais joué à Jet Set Radio Future sur Xbox. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est pas vraiment une suite, c'est une espèce de révision du premier. Voilà, c'est un peu compliqué à dire. Mais ça, c'est un jeu très original qui a mis sur le devant de la scène le cel shading, notamment. Technique de rendu qui était... qu'on avait déjà vu.
Déjà sur le premier, oui.
Voilà, mais qu'on... Enfin, c'est la première fois qu'on voyait ça. Sega avait vraiment fait une grosse promo là-dessus. Alors, je sais pas ce que vaut le jeu, en fait. Je me rappelle d'y avoir joué un petit peu, mais j'ai pas non plus fait grand-chose. Alors, c'est cool parce que c'était dans une espèce d'environnement un peu ouvert dans lequel t'allais taguer des trucs et batailler des gangs. Ça, c'est pareil, c'est un jeu un peu barré, qui a pas vraiment de sens, qui est une espèce d'explosion créative. C'est-à-dire qu'on part un peu dans tous les sens sans trop réfléchir. Puis de temps en temps, ça donne un truc un peu original, notamment en termes de rendu visuel. Mais derrière, je sais pas ce que ça donne. Mais voilà, une suite exclusive à Jet Set Radio, alors qui est lui, pas vraiment une suite, qui est plus une espèce de relecture, en gros. Jet Set Radio Future. Je suppose que personne n'a eu l'occasion d'y jouer.
Non.
C'est dommage, parce que à mon avis, ça aurait peut-être mérité d'en parler un petit peu plus. Mais bon, étant sorti sur Xbox, et la Xbox ayant le succès qu'elle a connu en Europe, ça ne m'étonne pas.
Et qu'à faire une manette plus petite.
Oui, moins conne aussi. Il y a eu aussi Sega Soccer Slam. Alors ça a peut-être déjà beaucoup plus parlé.
Ah, très très bon jeu.
Sorti sur Xbox, sur GameCube et sur PS2. Moi, je me suis beaucoup amusé avec aussi. Alors c'est une espèce de précurseur de Mario Striker, en fait. Hein,
oh, j'adore.
Si on résume.
Putain, 2002.
C'est exactement ça.
C'est d'ailleurs fait, il me semble, par les mecs qui ont fait Mario Striker avaient fait Sega Soccer Slam juste avant. Si je me rappelle bien, je crois que c'est la même équipe.
C'est fort probable.
Donc l'idée, c'est un jeu de foot totalement arcade, complètement barré, avec des équipes de... Je crois que c'est 4 joueurs contre 4 ou 5 contre 5, avec un 4 contre 4 avec un gardien. quelque chose comme ça, sur des terrains très réduits, avec des pouvoirs, c'est-à-dire que chaque mec dans ton équipe a un pouvoir spécial, des tirs spéciaux, et de temps en temps, t'as une espèce de projecteur qui arrive sur le terrain, et en fait, si t'arrives à lancer un tir quand t'es dans le projecteur, ce qui est pas facile du tout, t'as une espèce de super frappe délirante, qui troue totalement le gardien en face, donc c'est vraiment ça, c'est Mario Football, c'est du foot arcade sans aucune règle, sans hors-jeu, sans... Enfin, complètement délirant.
J'en veux un sur Switch.
Putain, ce serait tellement bon.
Est-ce que ce serait très chouette à... J'ai pu avoir beaucoup joué avec mon frère, et c'est vrai que c'était très fun comme jeu.
En fait, le mode solo était peut-être un... Enfin, pas super facile... Mais en multi, c'était vraiment l'éclate. Et en plus, les équipes avaient vraiment de la personnalité. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une équipe brésilienne. Enfin non, il y avait l'équipe, c'était genre l'équipe Caliente, tu vois, l'équipe... Voilà, il y avait un Brésilien, un Espagnol. C'était pas du tout stéréotypé, hein. T'avais l'équipe du Nord où il y avait un Allemand, un Écossais, un Islandais, machin. C'était que des conneries comme ça.
Oh, mais j'adore.
Mais c'était cool comme jeu, parce que t'avais vraiment un design très particulier. T'avais toute une ambiance qui allait avec... ça marchait bien. Et puis celui, t'avais l'équipe Caliente où il y avait El Fuego, c'est ça. Avec un catcheur mexicain, avec... voilà. Il y avait une équipe avec un Français. À quoi tu reconnaissais qu'il était Français, mais il avait une moustache, puis il avait un accent à la con. C'est ça, quoi. C'est vraiment... C'est du délire. Mais ça, c'est une nouvelle IP, tu vois. C'est un truc, les mecs de Sega ont sorti ça, tu sais pas d'où. Du chapeau, allez hop.
Sans dire que ce serait drôle. Hein.
Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Sega accompagne aussi la sortie de la GameCube au Japon avec Super Monkey Ball.
Qui deviendra une grosse franchise d'ailleurs.
Qui deviendra une très grosse franchise, puisqu'il y aura une suite Super Monkey Ball 2, il y aura un Super Monkey Ball Adventures aussi sur GameCube qui est pas terrible, qui est un jeu très moyen, il y aura des versions sur DS, il y aura des versions sur GBA, il y aura des versions sur Wii qui sont dégueulasses, il y aura des versions sur DS qui sont encore plus dégueulasses. En fait, il y a le 1, le 2, le reste, ça vaut pas le coup, je pense.
Et il y a sa suite spirituelle F-Zero GX, puisqu'ils utilisent le même moteur.
Pas tout à fait quand même, enfin c'est le même moteur, ok, mais c'est pas tout à fait une suite spirituelle quand même. C'est compliqué.
Et vous le voyez arriver le trophée assist dans Smash Bros.
De Super Monkey Ball ?
Le singe, ouais.
Bah, il y a peut-être moyen, oui. Moi ça me ferait marrer qu'il y ait le singe en fait, parce qu'il y avait... Alors c'est les singes, je crois qu'il y a quand même des différences entre les singes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus lourds, ou qui ont plus d'inertie, ou je sais pas quoi... Mais je suis même pas sûr en vrai, parce que si ça se trouve, il n'y a aucune différence entre les singes et je déconne complètement.
Je sais plus, ouais.
Mais ça c'était typiquement un jeu qui était sorti en arcade, et il me semble que sur la version arcade, t'avais une espèce de gros trackball en fait pour y jouer. Et sur GameCube, ça marchait avec le stick, et c'était... Enfin, c'est... Je crois que... En fait, quand la parenté avec F-Zero GX, elle est peut-être là. Je sais pas si vous... Enfin, vous avez remarqué que dans F-Zero GX, le stick est ultra sensible, quoi. Faut vraiment, c'est un jeu d'ultra précision. Bah, Super Monkey Ball, c'est un peu pareil. Hein. C'est vraiment, tu peux twitcher.
C'est vrai qu'il y a une grosse boule sur l'arcade. Je viens de vérifier du coup. T'as une énorme, et puis j'ai une photo avec un gamin qui a les deux mains dessus. C'est dérangeant.
Est-ce qu'il y a un vrai singe dans la boule ?
Oui, pour moi.
T'es un glissant.
En vrai, ça aurait été énorme. En vrai, c'est une occasion perdue là. Bref, Beach Spikers.
Donc
moi je l'ai saigné avec Corrigan, je sais que Cyrard l'a saigné aussi. Le seul truc qui manquait c'était la physique des boobs dans Beach Spikers. Sinon c'est un excellent jeu d'arcade qui est d'ailleurs sorti en arcade mais qui est sorti surtout sur GameCube, en exclusivité sur GameCube. Et si vous pouvez vous le fournir celui-là, allez-y, si vous pouvez l'émuler, allez-y, c'est vraiment un très 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 bon jeu. Pareil, c'est un jeu d'arcade de Sega donc ça marche avec deux boutons. Et c'est tout.
Et puis c'est... Okay.
Donc c'est vraiment exceptionnellement simple, ça marche super bien. Et à côté de ça, Sega commence à faire des portages de ses gros succès de la Dreamcast. Attention les yeux.
C'est parti.
Alors on avait déjà Jet Set Radio, on avait déjà Shenmue 2, on avait déjà Sonic Adventure 2, donc là tu vois, t'as un mix en fait entre des nouvelles licences qui sont lancées, Sega Soccer Slam, Beach Spikers, Monkey Ball... tout ça, et qui commence à ressortir des gros succès. Donc il y a notamment Phantasy Star Online 1 et 2.
Ce seront les premiers jeux en ligne de la génération sur GameCube.
Et qui permettront de l'uniquer le cul.
De la pirater, oui, tout à fait. Parce que le système qui permettait de mettre à jour le jeu, parce que le jeu pouvait quand même se mettre à jour, je crois que en fait il y avait des patchs qui se téléchargeaient sur la carte mémoire. De mémoire c'était ça, donc ça devait pas être des gros patchs, hein, ça devait vraiment être des petites corrections, des petites choses comme ça. Et en fait, les mecs ont trouvé un moyen de baiser le système pour arriver à lui faire télécharger n'importe quel type d'exécutable. Et le lancer sur la console, bien évidemment. Ce qui fait que Phantasy Star Online 1 et 2, en fait, a eu un grand succès, mais on ne sait pas vraiment si c'est à cause du piratage ou à cause du jeu.
Ah, comme Twilight Princess, alors.
C'est un peu ça, ouais. Dans Twilight Princess, je pense qu'il a bien marché tout court, mais au bout d'un moment, les gens l'achetaient vraiment pour pirater, quoi. Phantasy Star Online 1 et 2, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà joué, jamais en ligne. Il y a un gros, gros contenu solo, hein. Le jeu en ligne est vraiment une petite partie du jeu. Je sais vraiment pas ce que... Enfin, c'est un jeu qui m'est assez étranger, parce que d'abord, c'est un RPG. Ensuite, ça ressemble quand même beaucoup à une espèce de dungeon crawler. Bon, bref, c'est un peu compliqué.
C'est sympa.
Moi, je t'avoue que c'est un jeu qui m'a fasciné, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, parce que... Bah, quand on est adolescent, on a un budget limité.
Ouais, du coup, tu pouvais pas te permettre.
Bah, c'était pas dans mes priorités, on va dire.
Il y avait un abo pour le online sur ce truc, ou pas?
Ouais.
Ouais, ok.
Ouais, mais bon, il y a des... Enfin, t'avais des serveurs gratos, quoi.
D'accord.
T'as des serveurs privés, hein?
Ouais, ouais. Tu changes... En fait, le truc, c'est que il te faut le modem ou la carte réseau pour y jouer, et les paramètres sont enregistrés dans le jeu. Donc, en fait, tu mets les DNS qui vont bien, et ça te mène vers le bon serveur.
Okay. Ah oui, d'accord. Et c'était déjà le cas à l'époque, ou c'est depuis?
Alors, moi, je sais pas. La première fois que j'y joue en ligne, c'était une semaine avant que les serveurs officiels ferment.
Bien joué. Un bon sens du timing.
Du coup, je suis allé directement sur des serveurs privés.
Okay. D'accord. Ok. Bon, c'est bon à savoir en tout cas. On a un portage de Skies of Arcadia Legends sur GameCube.
Le jeu à 120 balles, neuf.
Le jeu que j'ai.
Bâtard.
Voilà, 30 balles d'occasion.
Je l'ai jamais vu dans, la console. Non, d'occasion, aujourd'hui, on est plus aux alentours de 100 balles.
À mon époque.
Ouais, non, mais je sais pas dans quelles conditions il est sorti ce jeu-là, mais c'était... C'est... Enfin...
Sous le manteau quasiment, j'ai l'impression, parce qu'il y a très peu d'exemplaires en Europe. Et c'est dommage parce que déjà c'est un jeu avec un univers assez cool. L'équipe qui a fait le jeu fera plus tard Valkyrie Chronicles.
Ah oui, quand même. Ah, il y a du niveau là du coup.
Ouais, tu vois, c'est pas n'importe qui. Mais d'ailleurs, les personnages de Sky of Arcadia sont dans le premier Valkyrie Chronicle. Puisque le héros et sa copine rousse sont des personnages jouables, et que la prêtresse qui recrute au début du jeu Sky of Arcadia est l'infirmière de l'équipe.
D'accord. Ah oui, c'est marrant du coup.
C'est pour la petite anecdote. Et c'est un des RPG qui a une réputation, enfin qui est réputé aussi pour commencer directement par un combat.
Oui, le héros ne se réveille pas.
Non, en fait,
c'est... que dans sa chambre et la forêt, il y a des monstres dans la forêt et un petit garçon a disparu. Ah, excusez-moi. C'est
tu commences, tu prends d'assaut un navire. Voilà. Enfin, ouais, tu pars à l'abordage.
Je rappelle que tu es un pirate du ciel.
Yarr. Oui, c'est ça qui était cool. Cette espèce d'ambiance un peu entre pirate science-fiction, Albator.
Il y a un très curieux. Très Albator dans le design du héros d'ailleurs.
Ah, complètement. Oui, c'est espèce de bandeau transparent sur l'œil. Enfin, il a une espèce de lunette bizarre sur l'œil.
C'est un peu le scooter de Dragon Ball. Hein.
Voilà, mais Skies of Arcadia Legends est aussi réputé parce que Skies of Arcadia, apparemment, sur Dreamcast, c'est un petit exploit technique. Hein. Le jeu n'est pas du tout simplissime. Alors, les graphismes ont l'air tout bêtes comme ça, mais en fait, derrière, il y a pas mal de choses qui se passent. Mais la version Legends est apparemment réputée pour être mieux équilibrée. Moins de rencontres aléatoires, mieux foutu, moins frustrant. Donc c'est vraiment une espèce de version Director's Cut, en fait, la version définitive donc, d'un jeu qui est sorti sur GameCube.
Ouais, avec tous les ajouts que tu pouvais télécharger sur Dreamcast sont inclus dedans.
Ah, ça je ne savais pas. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, ça, tiens, c'est intéressant.
D'où deux fois le prix.
D'où deux fois, oui, peut-être, c'est pour ça. Hein. Et donc, Sonic Adventures DX, qui est sorti après Sonic Adventures 2, sur GameCube, donc Sonic Adventures DX Director's Cut, le tout premier Sonic Adventures sur Dreamcast, qui est encore un portage qui est sorti en 2003. Pas grand chose à dire, c'est un jeu qui est à chier. C'est comme Sonic Adventures 2, moi. Ouais, c'est un peu ça, mais c'est toujours pareil. En fait, quand c'est Sonic, c'est sympa, mais t'as l'impression que c'est la console qui joue toute seule. Et quand c'est Big the Cat, bon, bah, nique ta mère.
Voilà, il y a ça. Mais moi, j'ai voulu le prendre sur Steam quand ils l'ont sorti en version HD et... Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, je pense qu'à l'heure actuelle, Sonic Adventure 2 est injouable parce que, waouh, Sonic Adventure c'était.
Je rappelle que c'est quand même, c'est toujours un des meilleurs jeux de tous les temps sur Metacritic, par exemple, hein, Sonic Adventures.
Sérieux ?
Après, ça remet dans son contexte. Hein. Je pense qu'à l'époque, c'était quand même.
Ah, il y avait pas eu de Sonic pendant 6 ans. Hein.
Oui, et puis après, y a ça,
bah, il y avait eu Sonic en... R, mais ça compte pas.
T'es en novembre 1998 quand il sort. Et en novembre 1998, un truc comme ça sur ta 80, télé, c'est
99
la
plutôt, parce que ça veut dire qu'il serait sorti en même temps qu'Ocarina of Time.
Non, il est sorti en même temps. Bah, je rappelle, novembre 1998, c'est la sortie de la Dreamcast au Japon.
Sérieux ?
Ouais.
Je crois que c'était 99, moi. Alors peut-être que
non, c'est 9 septembre 1999 aux États-Unis. Mais c'est bien en 98 au Japon.
Ah oui, exact.
T'as mal au cul là ou pas ?
Ah, j'avoue !
Donc tu vois, c'est là, si tu le replaces dans ce contexte-là, c'est-à-dire qu'en termes de gameplay, c'est pas non plus... ça a vieilli. Je pense qu'à l'époque, c'était acceptable parce que finalement, t'étais dans des périodes où les jeux en 3D, c'était pas encore tout à fait ça, et qu'au final, pour un jeu en 3D, il s'en sort pas si mal que ça par rapport à d'autres productions de la même époque.
Surtout, t'avais un doublage complet du jeu, hein, bon, qui est ce qu'il est, mais... le jeu était entièrement doublé, t'avais plusieurs personnages jouables, t'avais un monde en 3D à explorer comme dans Mario. Parce que faut pas, enfin, le gimmick de Sonic Adventure DX, enfin du premier en tout cas, c'était que entre les niveaux, tu devais aller les chercher dans une espèce de hub world à la Mario 64, en vraiment pas aussi bien fait, hein, clairement, mais il y avait aussi ce gimmick qui était présent.
Tout à fait. Mais je pense que c'est des jeux qui sont qui sont des produits de leur temps, en fait. Je sais que ça fait super cliché de dire ça, mais c'est une réalité. C'est des produits de leur temps qui effectivement ont marché parce que bah, à l'époque il n'y avait effectivement rien d'aussi surprenant. Effectivement, t'as Super Mario 64 qui en termes de gameplay est vachement plus quali, mais qui est quand même pas tout à fait le même genre de jeu. Et là, oui, ça devait être la claque visuelle, la claque auditive. Ah, en termes de gameplay, c'est pas trop la claque, mais il y a quand même des séquences très impressionnantes. Les séquences de la baleine qui détruit le...
Ah oui, c'est le premier niveau, ça.
Oui, voilà, c'est ça. C'est le truc qui t'en met plein les yeux, plein les oreilles dès le départ. Effectivement, ça, je pense qu'à l'époque, ça devait scotcher pas mal de gens. Et je le comprends.
Il y avait aussi le boss KO qui était un boss aquatique. Donc je pense qu'il y a eu qu'il y avait un aspect très, très liquide, et je pense qu'il a été créé aussi de cette façon-là pour montrer que tu comprends, la Dreamcast s'en jette, hein, c'est pas comme la 64 de l'autre connard à moustache.
Ou la PlayStation, hein, qui à la même époque galérait pour arriver à faire des textures qui se gondolent pas dans tous les sens. Hein. Je rappelle que c'est quand même ça, 1998. Essayez de bien replacer ça dans son contexte.
Hein, Ocarina of Time venait de sortir.
Voilà, et Ocarina of Time, c'est un jeu qui est révolutionnaire à plein d'égards, mais qui tourne à 20 frames par seconde en 320 par 240.
Dans sa version 64.
Là, on parle quand même d'un jeu qui tourne en 480p, qui est propre, qui est fluide, qui a 60 images secondes sans aucun problème. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Sonic Adventures. Hein. C'est vraiment... voilà. Et c'est à partir de ce moment-là... Alors, Sega donc a lancé des nouvelles licences, a lancé des portages améliorés ou des suites spirituelles ou des choses comme ça des jeux qui étaient sur Dreamcast. Donc on a ça, on a des nouvelles licences. On a un petit revival de certaines licences un peu bizarres, notamment, je voulais juste mentionner pour référence, Panzer Dragoon Horta, qui est donc la suite de Panzer Dragoon, Panzer Dragoon 2 et Panzer Dragoon Saga, qui étaient tous les trois sortis sur Saturn. Et donc Panzer Dragoon Horta sort en 2003 sur Xbox. Panzer Dragoon, c'est une espèce de jeu de shoot. C'est une espèce de shooter sur rail qui est considéré par beaucoup comme un des meilleurs shooters sur rail existants. Qui était quand même une petite exploit technique sur Saturn, et qui sur Xbox est vraiment un jeu très 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 beau. Et qui contient l'intégralité de Panzer Dragoon, le premier du nom. Tu peux le débloquer quand tu joues 5 ou 6 heures, je crois, à Panzer Dragoon.
Ah, sympa ça.
Tu as en bonus l'intégralité du premier jeu, ce qui est quand même très cool. Donc si vous avez l'occasion à Panzer Dragoon Horta, ça vaut le coup d'être joué. Hein. Honnêtement, c'est assez impressionnant comme expérience. Parce que c'est très bizarre, c'est très barré, mais voilà. Une autre licence, tiens, j'ai failli l'oublier, je suis désolé de Rosgar. Billy Hatcher and the Giant Egg, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que voilà. L'orgasme.
Si vous voulez, c'est un peu le jeu de l'enfance pour moi. Je l'avais trouvé un peu par hasard dans une boutique de jeux vidéo vers chez ma grand-mère, dans une galerie commerçante d'un vieil Intermarché. Je sais pas, j'ai dû payer ça 10 balles par hasard. Et puis, je trouvais ça... Enfin, la jaquette rendait bien. Vraiment, c'était rare pour les jeux GameCube, parce qu'il y en avait vraiment certaines qui étaient dégueulasses. Mais là, elle m'inspirait. Je me suis dit, ah, il y a un truc. Et alors, outre l'histoire principale qui m'a... Bah, un peu plus, même s'il était assez dur dès qu'on montait un peu dans les niveaux, ce qui était compliqué à mon âge, parce que je devais avoir 10 ans à la sortie du jeu. Le mode multi était une pépite. Putain, on était en arène, et l'objectif du jeu, de manière générale, était de faire grandir des œufs en les faisant passer dans des bulles de nourriture pour les faire éclore et obtenir les animaux et les objets qui en sortaient. Là, en fait, on avait tout cet aspect-là qui était augmenté et glorifié dans des grandes batailles d'arène, et il fallait péter la gueule de tes adversaires, donc souvent tes copains, de tes camarades de classe de 10 ans aussi, et tu te retrouvais à balancer des sortes d'otaries de glace, il y avait un aigle de feu, ce genre de choses, et en plus t'avais des œufs Sega avec des mascottes justement iconiques de Sega, avec par exemple Chuchu dont on a parlé tout à l'heure,
Big the Cat.
Non, heureusement que non. mais il y avait
pourtant,
les codes,
c'est une
icône, hein. Ouais, une super icône. Mais et du coup c'est vrai que c'était quand même vachement bien comme jeu, et je voulais en faire un article sur le dojo, mais je l'ai jamais fait. je le ferai un jour.
Je confirme Billy Hatcher. Alors j'avais jamais joué en multi, moi j'ai joué en solo, et c'est vrai que c'est un bon jeu, ça fait partie des trucs, c'est rigolo comme tout, t'as une bonne ambiance, c'est assez marrant, il y a des musiques très sympas, il y a des décors vraiment vraiment magnifiques. Ça ressemble effectivement à un jeu Sega, c'est très coloré, ça pète de partout, c'est très pep, c'est très barré en fait comme concept, c'est vraiment le Sega de cette époque-là, l'époque de la Dreamcast et un peu après, c'est-à-dire le truc qui part un peu dans tous les sens créativement, c'est on va faire un jeu dans lequel on est un petit garçon qui a le pouvoir de faire éclore des œufs, dans lequel il va y avoir des animaux qui vont avoir des pouvoirs qui vont permettre d'aller... Voilà, c'est le truc.
Un garçon avec une tenue de poulet.
Voilà, mais c'est sur le papier, c'est à peu près aussi con qu'un plombier qui se mettrait à aller dans des tuyaux pour sauver des princesses dans un royaume champignon. Je pense que personne n'a jamais fait ça, tellement c'est barré. Mais voilà, c'est exactement ça, c'était des trucs complètement barrés. Donc voilà, en dehors de ça, ça commence à partir en couille. C'est-à-dire qu'en partir de 2003, 2004, 2005, 2006, Sega sort des suites en fait, de ces jeux Dreamcast-là.
Bah déjà, on aura l'exploitation de Sonic jusqu'à la mort avec Sonic Heroes et Shadow the Hedgehog.
Et Sonic Riders.
Sonic Riders,
faut pas l'oublier.
S'accumulera en 2006 avec l'ignoble Sonic the Hedgehog. Parce que faut
c'est
quand même
exactement
dire...
ça. Non mais faut le dire. Voilà, faut le dire.
C'est qu'il y a quand même un certain passif de ce côté-là. À côté, ben on sait qu'ils bossent, bon, ils bosseront avec Nintendo pour sur FGO GX et la version arcade AX. Jeux qui sont plutôt réputés.
Mais qui sont très très bons. Hein.
Mais en fait, ces gars, ils vont subir comme absolument tous les éditeurs japonais. Ils vont se prendre en pleine gueule le passage à la génération HD. Ils vont être à la bourre, donc on parle de Sonic 06, dont la démo était moins buggée que le jeu normal, ce qui est sorti après.
Mais il est...
Sérieux.
L'ignoble, mais dans le même genre, il y a aussi un des jeux que je voulais citer, mais tu as tout à fait raison, hein. Phantasy Star Online 3, qui est une exclusivité, enfin qui est sorti sur Xbox et GameCube.
C'est pas celui avec des cartes.
C'est celui avec des cartes, et qui est... Enfin, qui a la réputation d'être vraiment très 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 en deçà du reste. C'est-à-dire que, voilà, c'est 2003-2004, c'est le moment où ça part en couille, et même pour les compilations, en fait, de Sega, parce que Sega sort, depuis des années, en fait, sort des compilations de ses jeux Mega Drive, et donc, y a un Sonic Mega Collection qui sort sur GameCube, PS2, Xbox, aux alentours de 2002-2003, qui reprend donc Sonic, Sonic 2, Sonic 3 et Knuckles, quelques autres jeux, Game Gear, un peu insignifiants, mais voilà, qui reprend quand même des gros hits de la Mega Drive. Et après, ils sortent Sonic Gems Collection, qui sort Sega. Alors, Sonic CD, c'est la première fois que Sonic CD est ressorti, mais qui, à côté, contient Sonic the Fighters, Sonic Air, enfin, que des bouses. Mais que des bouses. Et c'est pareil, tu sens que les compilations aussi commencent à baisser en niveau. Donc, effectivement, il y a cette génération HD qui frappe tous les développeurs japonais, ça, c'est une réalité. Et Sonic 2006 en est vraiment le symptôme. On n'arrive plus à faire de jeux pour cette... On n'arrive pas à faire de jeux pour cette génération-là. On prend vraiment cher... mais très 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 cher. Mais il y a aussi, avant ça, il y avait quand même le signal d'alarme, il est démarré avant, hein, avec Sonic Heroes, avec Shadow the Hedgehog, il y a vraiment une espèce de panne créative.
Alors, faut pas oublier qu'en plus, c'est en 2004 que Sega va fusionner avec Sammy, hein, pour devenir Sega Sammy.
Il y a
et
ça aussi.
C'est pas forcément un hasard.
Ah, c'est peut-être pour ça aussi que le calendrier 2004-2005 de Sega est quand même très 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 vide, par exemple.
Sammy, qui est une entreprise spécialisée dans les pachinko.
Oh putain.
Comme les
Playmore,
comme les Konami maintenant, et comme les Playmore lorsqu'ils ont acheté SNK.
Ah putain, je savais pas ça.
Voilà.
Ah, j'avais pas situé cette date-là, moi.
Petite précision, je suis allé vérifier parce que je me suis souvenu qu'ils avaient fusionné. Et en fait, ces gars, ils doivent une partie de leur survie en fait à tout le marché japonais parce qu'ils ont une riche série de licences de niche vraiment japonaises. Et donc, vous pouvez avoir une idée, tout simplement en jouant aux deux projets Cross Zone. Où en fait, quand tu regardes les licences Sega, c'est pas du tout les licences que nous on connaît en Occident. C'est des trucs genre Sakura Taizen, c'est les Shining Force, qui sont vraiment des trucs qui sont pas sortis du Japon. Ils sont devenus très très nichés et en fait c'est ça qui les a un peu sauvés, ainsi que la série Yakuza qui marche du tonnerre au Japon et qui a commencé sur PS2 d'ailleurs. Précision. Et du coup, Sega en tant que développeur, c'est un peu le moment où ils vont commencer à part Sonic en fait à plus faire grand chose. Ils vont devenir vraiment, vraiment éditeurs de jeux. Beaucoup de partenariats avec des développeurs japonais, donc Platinum Games évidemment, Trias pour Resonance of Fates. Et c'est un peu le moment où en fait le Sega développeur ne va plus trop exister.
Et en fait, ouais, c'est ça, donc c'est bien ça, c'est 2004 en réalité. 2004-2005, il y a vraiment une transformation qui s'opère et qui fait que. Alors il y a un déclin qui commence un peu avant, malgré tout. Mais c'est vraiment là où ça commence à partir totalement en couille, quoi. C'est 2004-2005, le rachat de Samy, enfin par Samy, du coup, puisque c'est pas dans le sens contraire, et à ce moment-là, il commence à part effectivement Sonic, il commence à plus faire grand-chose, et Yakuza, qui arrive en 2006, le premier Yakuza.
Ouais, alors, ils font plus grand-chose, ils éditent beaucoup de jeux, et notamment, ils ont racheté tout ce qui est...
Football Manager.
Football Manager, ouais, mais en fait, Football Manager Total War. Et Amplitude pour tout ce qui est les Endless Space et compagnie. C'est le truc qu'ils ont racheté qui, comme ça, c'est pas du tout l'esprit Sega. Mais en fait, c'est ça qui fait qu'en tant qu'éditeur, Sega existe, quoi, en gros. Notamment en Occident.
D'accord. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas s'il y a un jeu de cette période-là que vous aimeriez conseiller à rejouer. On a parlé de quelques jeux qui étaient vraiment très fun, Sega Soccer Slam, Crazy Taxi et tout ça. Est-ce qu'il y a... Antix, par exemple, un jeu en particulier que tu conseillerais aux gens de refaire de cette période-là, de cette période, on va dire, Dreamcast, post-Dreamcast, un jeu vraiment marquant.
F0GX ou pas?
Oui,
on va faire sans F0GX. Alors,
on va dire qu'F0GX, on le conseille de manière générale parce que, de toute façon, c'est un excellent jeu et ce sera le dernier F0 de l'histoire, hein, maintenant c'est officiel.
Non, parce qu'il y a F0 GP Legends sur GBA.
Voilà, merci.
tu l'as cherché.
Il y a la carte 8 Deluxe.
Bon, alors, en dehors de F0GX, un jeu de cette période-là que t'aimerais conseiller, n'importe lequel. Hein,
J'ai pas joué à Sky of Arcadia, mais je pense clairement que c'est une bonne valeur pour les amateurs de RPG. Après, en termes de jeu tout court, je pense que moi, celui que j'ai peut-être le plus apprécié, Sonic 2, je le conseillerais pas parce qu'à mon avis, il est juste un jeu à l'heure actuelle, mais Sega Soccer Slam m'avait vraiment bien éclaté. Et j'en garde plutôt des bons souvenirs globalement. Donc, quitte à faire un jeu Sega, je pense plutôt celui-là. Après, si vous êtes courageux, jouez à Sonic aussi, ça, c'est un grand jeu.
Drosgar, alors Beatcher and the Giant Egg, forcément, mais c'est un jeu de ton enfance.
C'est trop easy.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui t'ont éventuellement marqué ou c'est... Tu vas être capable
le problème,
de dire...
c'est que ce soir, vu qu'il n'y a pas Galaxy, je suis le plus jeune, et c'est une époque que j'ai assez mal connue, parce que c'est le moment où je commençais à me mettre un petit peu aux jeux vidéo, mais c'était vraiment léger. J'étais beaucoup plus console portable déjà à l'époque, donc c'est vrai que j'ai un peu de mal à me situer. Je connais tous ces titres, j'ai pu y jouer vite fait en émulation pour certains. C'est pas bien l'émulation, mais bon, c'est pas grave, hein, faut pas le dire. Mais c'est vrai que j'ai pas assez joué en général pour pouvoir bien les conseiller, à part voilà, Beatcher, que celui-là j'ai retourné dans tous les sens.
Mecton,
je vais faire un petit peu... Je vais tordre la question, mais House of the Dead, c'était sympa.
Ah, c'est tordu, oui et non.
Ouais.
Un petit peu quand
ça
même.
Ça a continué à vivoter. Oh putain, le film.
Ah, oui, le film est très bien.
Le film bourré entre potes, c'est un chef-d'œuvre. Mais...
Ah bah comme Drinking Game, il est très très bon le film. Zergy, t'as éventuellement un jeu de cette période-là que tu pourrais conseiller, peut-être Phantasy Star Online, mais du coup tu y as
joué. Moi j'ai bien aimé PSO, mais je conseillerais quand même plutôt Sky of Arcadia.
Ah, donc toi tu y as joué à Sky of Arcadia du coup?
Ah oui, je l'ai retourné.
D'accord, ah putain, je parce que il y a Antix qui en a parlé, mais du coup je m'étais dit, il n'y a personne d'autre, mais en fait non, tu l'as retourné.
Oui,
d'accord.
Ouais, carrément.
Bon, bah donc Skies of Arcadia. Personnellement, je vous conseillerais bien Sega Soccer Slam aussi, parce que c'est vraiment un très bon précurseur à Mario Football. Et en fait, on retrouve le même genre d'ambiance totalement barrée que les jeux de sport Mario, mais sans Mario, ce qui fait du bien des fois. Ça a l'air con comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Nous allons quitter avec la citation du jour, qui me fait très très plaisir. Je dois vous avouer que j'ai...
Alors, juste avant la citation, il y a Vince956 qui dit que Skies of Arcadia est vraiment trop bien.
Voilà, mais je pense que Skies of Arcadia, ça fait peut-être partie des trucs qu'il faudrait arriver à revisiter.
On Switch.
Mais peut-être, pourquoi pas ? Peut-être une suite. Sega, si tu nous écoutes.
Alors, il y avait eu des rumeurs d'un second en 2004, mais bon, c'est...
Ça fait d'ailleurs partie des jeux que Sega, même dans ses sorties de ses partages de jeux Dreamcast, sur Steam notamment, n'a pas pris le temps de reporter. Enfin, de porter à nouveau. Quoi. Y a pas de...
ils ont peut-être perdu le code source. Hein.
Ah, c'est pas impossible, parce qu'apparemment, c'est une spécialité de beaucoup de développeurs japonais. Kingdom Hearts, je te regarde.
Alors, c'est un mal pour un bien, puisque, petite anecdote, hein, pour Kingdom Hearts, effectivement, Square Enix a perdu le code source. Alors, je crois qu'ils ont perdu le code source de ça, et ils avaient pas perdu le code source, mais je sais plus, ils avaient mal géré le code source de FF7. Je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a toute une histoire autour du code source de FF7, et notamment du portage PC de FF7, qui a apparemment été une catastrophe. Et ça a encouragé Square, en fait, à mettre en place des vraies procédures et des vraies directives pour l'archivage du code source et des assets de ces jeux. Un truc assez balèze, hein. Les mecs ont vraiment tiré des leçons du truc en se disant « faut plus jamais qu'on fasse ça, il faut vraiment qu'on se bouge le cul pour que les assets et le code de nos jeux, on puisse le garder dans un endroit absolument safe pour éviter que ça parte en couille ». Donc voilà, c'est quand même intéressant de voir que les gens apprennent quand même un peu de leurs erreurs. Mais effectivement, Panzer Dragoon Saga est un des jeux qui est connu pour avoir, dont le code source a été perdu. C'est pour ça qu'il a jamais été ressorti ailleurs que sur Saturn.
Alors que
le seul moyen de le faire tourner, c'est en émulation.
Et c'est un hybride RPG shoot assez intéressant apparemment, mais faut avoir la cartouche.
Bah, et puis surtout, c'est le jeu le plus cher de la Saturn. Parce qu'une copie complète se chiffre en moyenne à 300 boules.
Ouais, bah en même temps, j'allais dire plus que Radiant Silvergun, mais Radiant Silvergun, on peut le télécharger sur Xbox 360, donc il a dû baisser.
Voilà, et donc nous allons nous quitter avec la citation du jour qui nous vient de Richard Ledbetter, que vous connaissez peut-être, c'est un des journalistes de Digital Foundry. Voilà, voilà, il se passe des trucs, c'est pas grave. Donc, Richard Ledbetter, qui est donc un des journalistes de Digital Foundry, alors Digital Foundry, c'est quand même les mecs qui sont capables de faire une vidéo de 20 minutes sur le Parallax Ambient Occlusion dans Dark Souls Remaster qui change complètement le visuel du jeu. Et qui sont capables de... Enfin moi, à chaque fois qu'ils font un zoom x4 sur une texture dans le fond de l'écran en disant qu'en 4K elle est quand même vachement moins fine sur PS4 Pro que sur PS4, je vois jamais la différence. Mais je dois être con. Et donc Digital Foundry a fait une vidéo pour dire non mais c'est ok si vous pouvez faire tourner, si vous faites pas tourner le jeu en ultra sur PC. En high franchement il est déjà très bien.
Merci
ça m'a éclaté les mecs qui sont là à discuter du sexe des anges sur deux frames de différence entre un truc ou du parallaxe ambient occlusion motion blur. Per Object Motion Blur, enfin des trucs complètement délirants, et qui derrière te disent non mais si tu le fais pas tourner en ultra c'est bon, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Voilà, ça fait plaisir. Bref, on se retrouve la semaine prochaine, je sais absolument pas de quoi on va parler parce que cette émission est très bien préparée, mais on a quelques sujets en stock.
C'est ça, le bon vieux stock des sujets au hasard.
Pour meubler avant l'E3 qui va être le gros sujet, sachant qu'entre deux, on pourra peut-être avoir une surprise, je sais pas, un Nintendo Direct.
Et ce sera David de Grutola, oui.
L'homme qui révolutionne les jeux en faisant des FMV en 3D. Bref. Voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous, ciao tout le monde.
Bye bye.
Bisous. Salut.